Chapitre 4. Explosion. Et surprit une conversation entre Erikska et le capitaine, qui se plaignait que le vent s'opposait au navire, comme si elle, lui-même, leur reprochait leur retour. Erikska a éclaté de rire et s'est moqué de sa croyance en ces vieilles divinités. Elles se sont affaiblies de muscles et d'esprit. C'est la dame pâle qui commande au vent aujourd'hui. Comme elle est mécontente de la Narcheska, vous en pâtirez tous. À ces mots, le capitaine s'est détourné d'elle, l'air furieux, comme font les Outriliens quand leur peur leur fait honte et qu'ils cherchent à la dissimuler. Quant à la servante que vous m'avez ordonné de surveiller particulièrement, je n'ai pas vu signe d'elle. Ou bien elle n'a pas quitté la cabine de la Narcheska de toute la traversée, ou bien elle ne se trouve pas à bord du navire. La seconde hypothèse me paraît la plus probable. Compte rendu anonyme sur le voyage de retour de la Narcheska. Adressé à Imbre tombe étoile. Le sommeil me fuyait. Finalement, je me levai, me vêtis et montai dans ma tour. Il y faisait froid et tout était obscur, hormis la lueur vague de quelques braises mourantes dans la cheminée. Je les attisai pour y allumer des bougies, relançai le feu et enfin humectai un linge que j'appliquai sur mon visage douloureux. Je restai un moment à contempler les flammes, puis, dans le vain espoir de me distraire des questions auxquelles j'étais incapable de répondre, je m'assis à la table et m'efforçai de m'absorber dans l'étude des manuscrits qu'Imbre avait sortis. Ils traitaient des légendes concernant le dragon outrilien, et deux d'entre eux étaient récents, les lettres noires et distinctes ressortant sur le crème clair du vélin. Ils ne les auraient pas laissés traîner s'ils n'avaient pas voulu que je les voie. Le premier rapportait qu'un dragon bleu argenté avait été aperçu survolant le port de Terrilville pendant une bataille décisive entre les marchands et les Chalcédiens. Sur l'autre, s'étalait ce qui ressemblait à l'exercice d'écriture d'un enfant, tant les lettres étaient biscornues et maladroites. Mais Imbre m'avait enseigné, bien des années auparavant, plusieurs codes grâce auxquels nous pouvions communiquer, et celui-là ne résista pas longtemps à mes efforts. De fait, son chiffre était si simple que je m'inquiétais. Le vieil assassin avait-il perdu de vue le secret dont nous devions impérativement nous entourer? Ou bien la qualité des espions qu'il employait avait-elle baissé? Car le message se révéla être un rapport de l'agent qu'il avait envoyé dans les îles d'outre-mer. Il recensait principalement les bruits, les rumeurs et les bribes de conversation que l'homme avait pu surprendre à bord du navire de la Narcheska durant son trajet de retour des Siduchés. Je n'y découvris pas grand-chose d'immédiatement utile, encore qu'une allusion à une femme pâle me troubla. J'eus l'impression qu'une ombre de mon ancienne existence cherchait à m'agripper, armée de griffes au lieu de doigts sans substance. Je me préparais de la tisane quand Imbre arriva. Il poussa le casier à manuscrit et entra en titubant. Il avait le nez et les joues rouges, et sidéré, je crus un instant qu'il était ivre. Il se retint au bord de la table, se laissa tomber dans mon fauteuil et fit d'un ton plaintif.
« Fuite !»«
Que se passe-t-il » lui demandai-je en m'approchant. Il me dévisagea, puis, en parlant trop fort,
« Je ne t'entends pas !»«
Que se passe-t-il » répétai-je en haussant la voix. Je ne pense pas qu'il m'entendît davantage, mais il expliqua.
« Une explosion. Je travaillais toujours sur le même mélange, celui que je t'ai montré chez toi, dans ta chaumière, mais cette fois, l'expérience a trop bien réussi. Tout a sauté !»
Il porta ses mains à son visage et palpa ses joues et son front. Son expression était poignante, et je compris aussitôt ce qui l'inquiétait. J'allais lui chercher un miroir, et il s'y regarda pendant que je me munissais d'une cuvette d'eau fraîche et d'un linge. Je trempai le tissu, l'essorai, puis l'appliquai un moment sur ses traits. Quand je le retirai, il avait perdu un peu de sa rougeur, mais aussi la plus grande partie de ses sourcils. « On dirait que vous avez été exposé à une grande vague de feu. » Vos cheveux aussi sont roussis par endroits.
Comment ?
Je lui fis signe de baisser la voix.
Je ne t'entends pas !
Gémit-il à nouveau.
Mes oreilles garillonnent comme si mon père adoptif m'avait assommé de calottes. Dieu que je détestais cet homme !
Le fait qu'il l'évoquât donnait la mesure de sa désorientation. Imbre ne s'était jamais guère épanché devant moi sur son enfance. Il tâta ses oreilles comme pour s'assurer qu'elles étaient toujours en place, puis les boucha et les déboucha d'un doigt.
« Je n'entends rien !»
dit-il.
« Mais je ne suis pas trop abîmé, n'est-ce pas ? Je ne garderai pas de traces, si ?
Je secouai la tête.
« Vos sourcils repousseront. Quant à ceci, »
je touchai légèrement sa joue,
« ça ne me paraît pas plus grave qu'un coup de soleil ou une engelure. Ça passera, et votre surdité aussi, je pense. »
Cette dernière prédiction se fondait uniquement sur mon espoir fervent qu'elle se réaliserait.
« Je ne t'entends pas !»
répéta-t-il d'un ton accablé. Je tapotais son épaule d'une main rassurante et déplaçais ma tasse de tisane jusque devant lui. Je désignais ma bouche du doigt pour attirer son attention sur mes lèvres et demandais en articulant soigneusement
« Votre apprenti n'a rien !»
Je me doutais bien qu'il ne pouvait mener seul ses expériences à par ailleurs. Il me regarda parler et enfin, au bout d'un moment, il dut saisir ma question. Car il répondit
« Ne te fais pas de soucis, j'ai pris soin d'elle !»
Puis il lut sur mes traits le choc que me causait l'emploi de ce pronom féminin et il s'exclama furieux.
« Occupe-toi de ce qui te regarde, Fitz !»
Sa colère était dirigée contre lui plus que contre moi. Et si son état m'avait moins préoccupé, j'aurais éclaté de rire. Elle. C'était donc une fille qui me remplaçait. Je réfrénais mon envie de deviner son identité ou la raison pour laquelle elle avait été choisie et réconfortais Humbre du mieux que je le pus. Au bout d'un moment, je constatais qu'il avait retrouvé une certaine capacité auditive, mais faible. Je me laissais aller à espérer qu'il la recouvrerait complètement et m'efforçais de lui communiquer ce sentiment. Il hocha la tête, puis écarta le sujet d'un geste qui se voulait désinvolte. Cela ne m'empêcha pas de noter l'expression anxieuse de son regard. Si sa surdité persistait, elle compromettrait gravement son aptitude à conseiller la reine. Il tâcha pourtant de ne pas s'inquiéter de son infirmité et me demanda, d'une voix trop forte, si j'avais vu les manuscrits qu'il avait laissés sur la table. Puis, comme en diable, je m'étais mis la figure dans un état pareil. Afin d'éviter une conversation bruyante, je décidai de répondre à ses questions par écrit. J'attribuais mon visage meurtri à une rixe de taverne dans laquelle je m'étais trouvé pris par accident, et ses propres soucis retenaient trop son attention pour qu'il doutât de cette explication. Il griffonna sur le bout de papier dont nous nous servions. « As-tu parlé à Burick ?»« J'ai préféré m'en abstenir, » répondis-je par le même moyen. Il pinça les lèvres, soupira et n'ajouta rien. Mais je vis bien qu'il aurait voulu m'entretenir davantage de ce sujet. Il devrait garder ses réflexions pour plus tard, quand, la chance aidant, les échanges seraient plus faciles. Nous nous penchâmes ensuite sur les rapports des espions et nous désignâmes mutuellement les passages intéressants, tout en convenant qu'il ne recelait rien qui pût nous servir dans l'immédiat. Humbre écrivit qu'il espérait recevoir bientôt des nouvelles d'un agent qu'il avait envoyé sur l'île d'Aslevial, vérifier si la légende contenait une parcelle de vérité. J'aurais aimé lui parler de mes progrès avec Lour et Devoir, mais je décidai de retarder mon compte-rendu, non seulement à cause de sa surdité partielle, mais aussi parce que je m'efforçais encore moi-même de déterminer comment je m'en sortais. J'avais déjà résolu de poursuivre mes efforts avec Lour le lendemain matin. Je pris alors conscience que le lendemain matin était tout proche, et Humbre parut s'en apercevoir lui aussi. Il m'annonça qu'il alla se coucher et comptait prétexter des douleurs d'estomac pour rester dans ses appartements quand le serviteur viendrait le réveiller. Le luxe d'un repos tardif m'était interdit. Je regagnai ma chambre, le temps de me changer, puis me rendis à la tour de vérité pour y attendre mes élèves. Je redoutais certainement davantage qu'eux la leçon à venir, car la migraine me martelait toujours le crâne. Je lui opposai un front inébranlable tandis que je préparais du feu dans la cheminée. Puis allumais quelques bougies et les posais sur la table. Quelquefois, j'avais l'impression d'avoir toujours souffert des douleurs qu'imposait l'art. J'envisageais un instant de redescendre chez moi, chercher de l'écorce elfique, et si je rejetais cette idée, ce fut non parce que je craignais de dégrader mes capacités d'artiseur, mais parce que j'associais de façon trop étroite ce produit à ma querelle stupide avec le fou. Non, je n'en voulais plus. Mais il n'était plus temps d'y songer. J'entendais le pas de Devoir dans l'escalier. Il entra, ferma la porte derrière lui et s'approcha de la table. Je soupirai intérieurement. Tout dans son attitude indiquait qu'il ne m'avait pas complètement pardonné. Ses premières paroles furent
« Je ne veux pas apprendre l'art avec un simple d'esprit comme partenaire. On doit pouvoir trouver quelqu'un d'autre. »
Son regard se fixa brusquement sur moi.
« Que vous est-il arrivé ?»
Je me suis battu. J'avais répondu avec laconisme à Essian, afin qu'il comprenne que je n'en dirai pas plus. Quant à Lour, je ne connais pas d'autre candidat satisfaisant que lui. Nous n'avons pas le choix.
Voyons, il n'est sûrement pas le seul. Avez-vous lancé une recherche organisée ?
Non. Tout à coup, avant que j'eusse le temps de m'étendre davantage, il prit la figurine posée sur la table. La chaînette oscilla entre ses doigts.
« Qu'est-ce ? »
demanda-t-il. « C'est à vous. Vous avez trouvé cet objet sur la plage où nous avons rencontré l'autre. Vous ne vous en souvenez pas ?»«
Non. »
Il contempla la statuette d'un air d'effroi, et puis, avec réticence, il se reprit.
« Si ? » ?»«
Si, je m'en souviens. » Il vacilla dans son siège.
« C'est Eliania, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça signifie, Tom ?
Pourquoi ai-je découvert cette représentation d'elle avant même de la connaître ? Comment ? Je tendis la main pour qu'il me la remette, mais il ne parut pas s'en apercevoir et continua de la regarder fixement, comme pétrifié. Je quittai mon fauteuil et contournai la table. J'observai le petit visage, la chevelure aux boucles sombres, la poitrine dénudée, les yeux noirs comme la nuit, et je constatai qu'il avait raison. C'était Eliania, non pas telle qu'elle était aujourd'hui, mais telle qu'elle serait adulte. La parure bleue sur ses cheveux était semblable en tout point à celle qu'arborait la Narcheska. Je repris mon souffle. J'ignore ce que cela signifie. Avec le débit d'un homme en plein rêve, sans quitter la figurine du regard, le prince me dit
« Ce lieu où nous sommes arrivés, cette plage, c'était comme un maelstrom, un gouffre qui attire la magie à lui, toutes sortes de magie. »
Il ferma les yeux un instant, la main serrée sur la statuette.
« J'ai failli mourir là-bas, n'est-ce pas ? L'art m'aspirait et me démantelait, mais vous êtes venu à mon secours et... Quelqu'un vous a aidé ? Quelqu'un ?»
Il chercha le mot juste en vain.
« Quelqu'un d'immense, quelqu'un de plus grand que le ciel. »
Je n'aurais pas exprimé ainsi ce que j'avais éprouvé, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Et je pris soudain conscience de ma réticence à discuter des événements qui s'étaient produits sur cette plage, ou même à y penser. Les heures que nous avions vécues alors étaient nimbées d'un halo, d'une lumière qui obscurcissait au lieu d'éclairer, et elles m'emplissaient d'un effroi diffus. Voilà pourquoi je n'avais pas montré les plumes au fou. Pourquoi je n'en avais parlé à personne. Elles représentaient un point vulnérable chez moi, une porte sur l'inconnu. En les ramassant, j'avais déclenché la mise en mouvement de quelque chose qui me dépassait, que nul ne pouvait maîtriser. Le seul fait d'y songer provoquait un recul dans mon esprit, comme si, en refusant de me souvenir, je pouvais effacer ce que j'avais provoqué.
Qu'était-ce ? Qu'est-ce que nous avons rencontré dans le courant d'art ?
Je l'ignore, répondis-je sèchement. Un grand enthousiasme brilla tout à coup dans les yeux du prince.
Il faut le découvrir.
Non. Je m'interrompis un instant. Je crois même qu'il faut faire très attention de ne pas le découvrir. Il me dévisagea d'un air effaré.
Mais pourquoi ? Vous ne vous rappelez donc pas l'effet de cette présence ? La merveille que c'était ?
Je ne me le rappelais que trop bien, surtout maintenant que nous en parlions. Je secouai la tête et regrettai brusquement de n'avoir pas gardé la figurine par-devers moi. À sa vue, tous mes souvenirs remontaient à la surface de mon esprit, de la même façon qu'en humant un parfum ou en entendant quelques notes d'une mélodie, on se remémore tout à coup la folie d'une soirée. Si, c'était merveilleux mais aussi dangereux. Je n'avais plus envie de m'en aller de voir, et vous non plus. C'est elle qui nous y a obligés.
Elle ? Cet être n'avait rien de féminin. On aurait dit un père fort, protecteur, empreint d'affection.
Ce n'était rien de tout cela, à mon avis, répondis-je involontairement. Nous lui avons attribué chacun la forme qui nous convenait.
Vous croyez que nous avons tout inventé ?
Non. Non. Je crois que nous nous sommes trouvés en présence d'une entité qui dépassait notre entendement. Aussi, l'avons-nous réduite à une forme familière afin de pouvoir la contempler, afin que notre esprit puisse la concevoir.
D'où tirez-vous cette idée ?
De vos lectures des manuscrits sur l'art ?
Non,
dis-je avec réticence. Je n'ai lu nulle part mention d'un tel être. Je vous ai exposé cette idée parce que c'est ce que je pense. » Il attendit que je poursuive, et je haussai les épaules en signe d'impuissance. Je n'avais pas de meilleure explication à fournir, à lui comme à moi, et je ne disposais pour la fonder que d'un sentiment exaltant de bonheur au souvenir de la créature que nous avions rencontrée, accompagné d'une impression de menace angoissante. Je fus sauvé par le raclement du panneau latéral de la cheminée qui s'ouvrait. L'eau rentra en éternuant, son flutio pendant sur sa chemise. Le contraste entre la peinture brillante du petit instrument et le vêtement loqueteux et taché me fit considérer le simple d'esprit d'un œil neuf, et je restai épouvanté. Ses cheveux étaient aplatis sur son crâne, et la peau qui apparaissait par les trous de ses habits noirs de crasse. Je le vis soudain, comme Devoir le percevait, et je compris que son aversion ne provenait pas seulement de la difformité physique et de la limitation intellectuelle du domestique. Devoir battit littéralement en retraite sur son passage, en fronçant le nez. Les années que j'avais passées en compagnie du loup m'avaient appris à accepter le fait que certains êtres dégagent une certaine odeur. Mais les relents qui émanaient de l'ours ne faisaient pas partie de lui de façon aussi intrinsèque que l'effluve musqué du furet. On pouvait y remédier, et cela serait nécessaire si je voulais que le prince collabore avec lui. Mais pour le présent, je dus me contenter de l'accueillir. « Lour, veux-tu t'asseoir ici ? » dis-je en dégageant le fauteuil le plus éloigné du prince. Le simple d'esprit m'étudia d'un œil soupçonneux, puis il tira le siège à lui, l'examina comme si un piège pouvait s'y dissimuler, et enfin s'y laissa tomber. Il se mit aussitôt à se gratter derrière l'oreille gauche. J'observai le prince du coin de l'œil. Il paraissait cloué sur place sous le coup d'une fascination horrifiée. « Eh bien, nous voici réunis, » déclarai-je. Puis je m'interrogeais, qu'allais-je faire de mes élèves? Le regard de l'ours se porta sur moi.
« La fille recommence à pleurer, »
m'annonça-t-il, comme si c'était ma faute. « Très bien, je m'en occuperai plus tard, » répondis-je d'un ton ferme tandis que mon cœur se serrait. « Quelle fille ? » demanda aussitôt le prince. « Rien d'important. » « L'ours, ne parlons pas de la fille, nous sommes ici pour travailler. » Il cessa lentement de se gratter, puis laissa tomber sa main sur la table et me regarda gravement.
« Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu parles dans ma tête comme ça ?»«
Pour voir si tu m'entends. » Il grogna d'un air pensif.
« Je t'ai entendu. » « Puis le chien. »
« Pas de ça. Êtes-vous en train de communiquer par l'art ? » fit le prince avec un intérêt non fin. « Oui. » Pourquoi est-ce que je ne capte pas votre conversation dans ce cas? Parce que nous nous focalisons l'un sur l'autre pour artiser. Le front du prince se plissa. Comment a-t-il appris cela alors que je n'y parviens pas? Je l'ignore, avouai-je. Apparemment, l'ours a perfectionné seul son talent pour l'art, et je ne connais pas ses limites. Peut-il cesser d'émettre cette musique sans arrêt? Je déployai ma conscience d'art, et me rendis compte alors que je faisais un effort pour séparer les pensées de l'ours de la mélodie qui les baignait. Je m'adressai à lui. « Lour, peux-tu interrompre ta mélodie ? Peux-tu m'envoyer tes pensées seules, sans la musique ?» Il me regarda d'un air inexpressif.
« La musique ?»«
La chanson de ta maman, peux-tu l'arrêter ?» Il resta un moment pensif, en susautant sa grosse langue.
« Non, »
répondit-il brusquement.
« Pourquoi ?»
fit soudain le prince. Il avait dû s'efforcer de ne plus entendre la musique pour voir s'il parvenait à surprendre les échanges d'art entre l'ours et moi. Il paraissait irrité, irrité et jaloux. L'ours leva vers lui un regard à la fois éteint et dénué d'intérêt.
« Je n'ai pas envie. »
Il se détourna et se remit à se gratter derrière l'oreille. Devoir resta un instant interdit, puis reprit son souffle. « Et si je te l'ordonnais en tant que prince ? » Une fureur contenue vibrait dans sa voix. L'ours le regarda de nouveau, puis ses yeux se portèrent sur moi. Sa langue sortit un peu plus tandis qu'il réfléchissait, et il me demanda.
« Tous les deux élèves ici ?»
Je ne m'attendais pas à cette question de sa part. Je ne l'aurais pas cru capable de s'accrocher ainsi à cette notion et encore moins de l'appliquer. J'en conçus à la fois de nouveaux espoirs et de nouvelles craintes. Tous les deux élèves ici, confirmai-je. Il s'avachit contre le dossier de son fauteuil et croisa ses bras courtois sur sa poitrine. Et moi je suis le professeur, poursuivis-je. Les élèves obéissent au professeur, lourd. Peux-tu arrêter ta musique ? Il me considéra un moment sans répondre.
« Pas envie, »
dit-il enfin, mais son ton avait changé. « Peut-être, mais je suis le professeur et toi l'élève. L'élève obéit au professeur. »«
Les élèves obéissent comme les serviteurs ?»
Il se leva, s'apprêtant à partir. La situation paraissait sans issue, mais j'insistais pourtant. « Les élèves obéissent comme des élèves, pour pouvoir apprendre. Pour que tout le monde puisse apprendre. Si Lourd obéit, il reste quand même un élève. » Si Lourd n'obéit pas, Lourd n'est pas un élève. Alors nous renvoyons Lourd, et il redevient un serviteur. Il se tut et demeura immobile. Réfléchissait-il ? Avait-il seulement compris ce que je lui avais dit ? Je l'ignorais. Devoir s'était enfoncé dans son fauteuil, le menton sur la poitrine, les bras croisés, la mine sombre. Manifestement, il espérait le départ de Lourd. Mais quelques instants plus tard, le petit homme se rassit.
« Arrêtez la musique, »
fit-il. Il ferma les yeux, puis les rouvrit et me regarda, les paupières plissées.
« Ça y est !»
Je n'avais pas eu conscience des coups de bélier que son art infligeait constamment à mes murailles. Dans le silence qui tomba soudain, j'éprouvais une impression d'immense soulagement, comme lors d'une accalmie en pleine tempête où le vent cesse tout à coup de hurler et où tout bruit s'éteint. Je poussai un grand soupir d'aise, et Devoir se redressa sur son siège. Il se déboucha les oreilles d'un air étonné, puis se tourna vers moi. « Tout cela, c'était lui ?» Je hochai lentement la tête, sous le choc, moi aussi. Une expression d'intense perplexité se peignit sur les traits du prince.
« Mais je croyais que c'était l'art lui-même, le grand fleuve dont vous parliez. »
Il regarda Lourd, et j'observai que son attitude envers le petit homme avait changé. Il le considérait non avec respect, mais avec circonspection. Préambule fréquent au respect. Et puis, comme s'abat brutalement un rideau de pluie, la musique s'enroula de nouveau autour de mes pensées, me coupant de Devoir comme la brume empêche deux chasseurs de se voir. Je jetai un coup d'œil à Lourd. Ses traits avaient repris leur mollesse habituelle, et je compris alors qu'artiser était une fonction naturelle chez lui. C'était ne pas artiser qui lui demandait un effort. Mais d'où cela provenait-il ? Ta maman te parlait-elle ainsi ?
Non.
Alors comment as-tu appris ? Il fronça les sourcils.
Elle me chantait des chansons. On chantait ensemble, et elle empêchait les garçons méchants de me voir.
Je sentis un vif intérêt m'envahir. Lourd, où est ta maman ? As-tu des frères ou des...
Arrêtez, ce n'est pas juste !
Le prince s'exprimait comme un enfant en colère. Son intervention me tira de mes réflexions. Qu'est-ce qui n'est pas juste ?
Que vous artisiez ensemble alors que je n'entends rien, c'est grossier. C'est comme tenir des messes basses devant quelqu'un.
Je perçus la jalousie qui le tenaillait. Lourd, le simple d'esprit, se révélait capable de ce qui restait inaccessible au prince des six duchés, et cela m'enthousiasmait manifestement. J'allais devoir faire preuve de prudence. Galen, le maître d'art, en aurait profité pour susciter de la rivalité entre eux afin de les pousser à travailler d'arrache-pied. Mais tel n'était pas mon propos. Non, au contraire. Comme deux métaux qu'on allie en les martelant, il me fallait réaliser l'union de ces deux élèves. Pardon, vous avez raison. C'est discourtois. Lourd m'apprenait que sa mère employait l'art pour lui fredonner des chansons, et ils chantaient ensemble. Parfois, elle s'en servait également pour empêcher les garçons méchants de le voir.
Sa mère possède donc l'art ? Elle est simple d'esprit, elle aussi ?
Je vis la grimace que fit Lourd à cette expression, tout comme autrefois j'avais ressenti moi-même une cinglure en entendant le terme « bâtard », et cela me fit mal. Je voulus reprendre sèchement le prince, et puis je me rendis compte de mon hypocrisie. En mon fort intérieur, n'appelais-je pas moi aussi Lourd le simple d'esprit ? Je décidai de me taire pour cette fois, mais également de veiller à ce que le petit homme n'entende plus ces mots de notre bouche. « Lourd, où est ta maman ?» Il resta un moment à me regarder sans répondre, puis, avec l'inflexion d'un enfant blessé, il déclara lentement.
« Elle est Marthe.
On eût dit qu'il s'arrachait le mot de la gorge. Il jeta des coups d'œil autour de lui, comme à la recherche d'un objet égaré. « Peux-tu me raconter comment c'est arrivé ?» Il fouilla ses souvenirs, sourcils froncés.
« On est venu à la ville avec les autres, pour la foule, pour la fête du printemps, c'est ça ?»
Il hocha la tête, satisfait d'avoir retrouvé les mots exacts.
« Et puis, un matin, elle ne s'est pas réveillée. Et les autres ont pris mes affaires. Ils ont dit que je ne voyageais plus avec eux. »
Il se gratta la joue d'un air malheureux.
« Après, c'était fini. Et je me suis retrouvé ici. Et puis, je me suis retrouvé ici. »
Son récit me laissait sur ma faim, mais je ne pensais pas obtenir mieux de lui. Ce fut Devoir qui demanda d'une voix douce. « Que faisait ta mère et les autres quand ils voyageaient ?» Lourd poussa un grand soupir, comme s'il se sentait peiné.
« Bah, comme d'habitude, trouver de la foule. Maman chante, Proki joue du tambour, et Jimou danse. Et maman fait « Ne le vois pas, ne le vois pas », pendant que je vais couper les bourses avec mes petits ciseaux en argent. Mais Proki me les a pris, et mon chapeau à gland et ma couverture aussi.
« Tu étais Tirlaine ?» fit Devoir d'un ton incrédule. « Pour ma part, je me tue en songeant. Quel usage pour l'art, dissimuler quelqu'un pendant qu'il fait les poches des badauds. » L'acquiescement de l'ours s'adressait plus à lui-même qu'à nous.
« Et si je travaille bien, j'ai droit à un sou pour m'acheter un bourbon tous les jours. »
« As-tu des frères ou des sœurs, lourd ?» Il réfléchit, le front plissé.
« Maman était vieille, trop vieille pour faire des bébés. C'est pour ça que je suis né bête. C'est Proki qui l'a dit. »
« Eh bien, ce Proki m'a l'air tout à fait charmant, » murmura le prince d'un ton ironique. Lourd le regarda d'un air soupçonneux. J'intervins. « Le prince pense que Proki a été méchant avec toi. » Lourd susauta sa lèvre supérieure un instant, puis il hocha la tête en déclarant.
« Il ne faut pas appeler Proki papa. Jamais, jamais. »«
Jamais, » approuva le prince, avec une sincérité non feinte. C'est à cet instant, je pense, qu'il changea de sentiment à l'égard du simple d'esprit. Il pencha la tête et considéra le petit homme sale et difforme. « Lourd, peux-tu m'artiser sans que Tom entende ce que tu me dis ?»«
Pourquoi faire ?»
demanda l'intéressé. « Pour être élève, lourd, » répondis-je à la place du prince, « pour être élève et pas serviteur ici. » Il se tut quelque temps, le bout de la langue recourbé sur sa lèvre supérieure. Tout à coup, Devoir éclata de rire.
« Pue le chien ? Pourquoi tu l'appelles pue le chien ?»
Lourd fit une grimace, puis haussa les épaules comme pour dire qu'il n'en savait rien. Aussitôt je flairai un secret. Il n'ignorait pas l'origine de cette épithète. Il la cachait. Par peur ? J'éclatai à mon tour d'un rire qui était pure comédie.
« Ce n'est pas grave, lourd. Vas-y, raconte-lui si tu veux. »
Il prit l'air égaré. Lui avait-on ordonné de me taire des informations ? Qui ? Imbre ? Le front légèrement plissé, il regarda le prince, puis s'apprêta à répondre. Je m'attendais à ce qu'il lui révèle savoir que j'avais le vif et avoir perçu que mon animal de lien était un loup. Mais les mots qu'il prononça me plongèrent dans la terreur.
« C'est comme ça qu'il l'appelle quand il me pose des questions sur lui, ceux de la ville qui me donnent des sous pour m'acheter des noix et des bonbons. Chien puant de traître. »
Il se tourna vers moi avec un petit air narquois, et par un effort de volonté, je parvins à élargir mon sourire contraint et même à émettre un léger rire. « C'est donc ainsi qu'il parle de moi, ces chenapans. « Souriez de voir, esclaffez-vous, mais ne me répondez pas. » J'avais réduit mon émission d'art à un faisceau le plus ténu possible. Pourtant, le regard de lourd volta fugitivement entre le prince et moi. Devoir était pâle comme la mort, mais il réussit à éclater de rire, d'un rire sec et saccadé qui évoquait plutôt un homme pris de haut le cœur. Je tentais ma chance. « C'est sûrement le manchot qui dit ça le plus souvent, non ?» L'expression de l'ours fit indécise. Je crus m'être trompé, mais il répliqua finalement.
« Non, pas lui. Il est nouveau, il ne parle presque pas. Mais quand j'ai fini de répondre, et qu'on me donne des sous, des fois il dit « Surveille ce bâtard, surveille-le bien !» Et moi je dis « Je le surveille, je le surveille !»
Et tu t'en tires très bien, Lourd. Tu t'en tires très bien, et tu mérites tes sous. Il se balança d'avant en arrière dans son fauteuil, content de lui-même.
Je surveille aussi le doré. Il a un joli petit cheval et un chapeau à plumes avec des yeux dessus.
C'est vrai, fis-je, la bouche sèche. Comme la plume avec des yeux que tu voulais.
Je pourrai la voir quand le doré ne sera plus là,
déclara Lourd d'un ton satisfait.
C'est ceux de la ville qui me l'ont dit.
J'avais l'impression de suffoquer. Lourd restait à hocher la tête, assis sur son fauteuil, l'air très content de lui. Lourd, le serviteur simplet d'Imbre, trop simplet pour reconnaître un complot pourtant évident, Lourd nous avait vendu pour quelques sous. Tout cela parce que j'étais moi-même trop stupide pour m'apercevoir que celui qui déambule au milieu des secrets d'un autre, sans même le savoir, peut lui-même abriter ses propres secrets. Mais qu'avait-il vu et à qui l'avait-il rapporté ? La leçon est finie pour aujourd'hui, dis-je d'une voix à peu près ferme. J'espérais qu'il s'en irait, mais il demeura sur son siège, apparemment perdu dans ses rêveries.
Oui, je fais du bon travail. Pas ma faute si le rat est mort. Et d'abord, je n'en voulais pas. Il a dit, le rat, ce sera ton ami. Et j'ai répondu non. Je me suis fait mordre par un gros rat une fois, et il a ajouté, « Prends-le quand même, il est gentil, donne-lui à manger et rapporte-le nous chaque semaine. » Alors j'ai obéi. Et puis, j'ai trouvé le rat mort sous le saladier. Le saladier a dû lui tomber dessus.
Sans doute, Lourd, sans doute. Mais ce n'est pas ta faute, pas du tout. J'avais envie de me précipiter dans les passages intérieurs de Castelserre pour retrouver Imbre, mais, comme une brume glacée, la vérité montait lentement autour de moi et me cernait. Le vieil assassin n'avait rien vu. Imbre ne savait rien. Il n'était plus en mesure de protéger son apprenti. Il était temps que j'apprenne à me défendre seul. Je pointais le doigt en l'air comme si une idée m'était soudain venue. « Ah, Lourd, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas les voir, n'est-ce pas ?» Il me regarda comme si j'étais stupide.
« Non, pas le jour où on fait le pain. Le jour de la lessive, quand on met les draps à sécher. C'est là que j'y vais et qu'on me donne mes sous. »
Le jour de la lessive, naturellement. C'est demain. Alors c'est bien parce que je n'ai pas oublié le gâteau rose. Je voulais te le remettre aujourd'hui. Peux-tu aller m'attendre dans la salle d'Imbre ? Ça me prendra peut-être un peu de temps, mais je tiens à te l'apporter.
Un gâteau rose ?
Il fouilla sa mémoire. Il ne devait même pas se rappeler que je le lui avais promis. Je m'efforçais de me souvenir de ce qu'il avait demandé d'autre. Une écharpe comme celle de Chahut, une rouge, des raisins secs. Mon cerveau fonctionnait furieusement, comme à l'époque des jeux qu'Imbre m'imposait. Quoi encore ? Un couteau, une plume de paon, et aussi des sous pour acheter des bonbons, ou bien des bonbons seuls. Il fallait que je me procure tout cela avant le lendemain. Oui, un gâteau rose pas brûlé, je sais que tu aimes ça. Je formais le vœu d'en trouver un en cuisine.
Oui.
Dans ses petits yeux soudain brillants naquit une expression que je n'y avais jamais vue, la joie du plaisir anticipé.
« Oui, j'attendrai. Tu l'apportes vite. »
« Non, pas très vite malheureusement, mais aujourd'hui. Tu m'attendras dans la salle d'Imbre, sans aller ailleurs. » Il s'était rembruni quand j'avais dit « pas très vite », mais il acquiesça néanmoins de la tête. « C'est bien, Lourd. Tu es un très bon élève. Vas-y à présent. » Et attends-moi. Dès que le panneau de la cheminée se fut refermé, Devoir ouvrit la bouche pour parler, mais je le fis taire d'un geste, et je m'assurai que le pas traînant de Lourd l'avait éloigné assez pour qu'il ne pût plus nous entendre. Alors, je me laissai tomber dans un fauteuil.
« Lodevin !»
murmura Devoir d'un ton catastrophé. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Lodevin m'appelait le bâtard. Était-ce une simple insulte, ou bien parlait-il du bâtard ? Qu'allons-nous faire ? Je regardai mon prince. Ses yeux noirs paraissaient immenses dans son visage crayeux. Les défenses et les espions d'Imbre s'étaient révélés inefficaces. J'avais l'impression de rester le seul rempart entre devoir et l'épi. Peut-être en avait-il toujours été ainsi. Égoïstement, je me félicitais que Laurier se trouvât au loin, hors d'atteinte de Lodvin. Au moins, je n'avais pas à me préoccuper d'elle. « Vous ne devez rien faire, rien, » répétai-je avec force, alors qu'il s'apprêtait à protester. « Rien qui sorte de l'ordinaire, rien qui puisse laisser soupçonner que nous avons vent d'un complot. Il faut vous comporter aujourd'hui comme n'importe quel autre jour, mais vous devez rester dans l'enceinte du château. » Il se tut le temps d'un soupir, puis répondit. « J'ai promis à Civil Brisinga une sortie à cheval avec lui, rien que nous deux. Nous avons prévu de sortir discrètement de Castelserre pour chasser avec son marguet cet après-midi. Il est venu m'en prier dans ma chambre hier soir très tard. » Il reprit son souffle et il examina manifestement la requête de Civil sous un jour nouveau. Il reprit d'une voix plus basse. Il paraissait agité et on aurait dit qu'il venait de pleurer. Quand j'ai voulu savoir s'il allait bien, il m'a assuré qu'il était seul responsable de ses petits ennuis et que l'aide d'un ami n'y changerait rien. J'ai supposé une histoire de fille. Je pris le temps de digérer ces informations avant de demander. Son marguet est ici ? Le prince acquiesça de la tête, l'air contrit. Il loue la pantie d'une vieille femme à l'orée des bois, près de l'appontement du fleuve. Elle nourrit l'animal, mais le laisse aller et venir à sa guise, et Civil lui rend visite chaque fois qu'il en a l'occasion. Il s'interrompit un instant, puis à voix. Je l'ai déjà accompagné une fois, tard le soir. Je ravalais les paroles qu'il me démangeait de prononcer. L'heure n'était pas aux réprimandes. En outre, ma colère était surtout dirigée contre moi-même. Là aussi, j'avais failli à mon devoir. Bien. Vous n'irez nulle part cet après-midi. Vous avez un furoncle mal placé qui vous empêche de sortir avec lui. Donnez-lui cette raison quand vous vous excuserez.
Je ne veux... Non. Je ne dirai pas ça, c'est trop gênant. Je déclarerai avoir la migraine. Tom, je ne crois pas que Civil soit un traître. Il ne me trahirait jamais.
Vous allez donner la raison que je vous ai indiquée précisément parce qu'elle est gênante. La migraine, ça fait mauvais prétexte. Pas un furoncle aux fesses. Je décidais d'aborder mes soupçons en biaisant. Peut-être Civil n'est-il pas un traître. Mais qui sait si quelqu'un ne le manipule pas pour vous attirer hors des murs de Castelserre? Si on ne le menace pas de... Eh bien, par exemple, de révéler publiquement que sa mère a le vif, s'il ne vous livre pas. Vous comprenez donc que la question n'est pas de savoir si on peut ou non se fier à lui. Gagnez du temps pour que je puisse agir. Allez vous excuser, mais n'oubliez pas de feindre de marcher avec précaution et d'éviter tout ce que vous éviteriez si vous souffriez réellement d'un furoncle. La mine sombre, il acquiesça de la tête, et j'en éprouvai un certain soulagement. Mais il déclara soudain.
« Je vais avoir du mal à refuser cette sortie. » Il a dit qu'il avait un service à me demander aujourd'hui.
« Lequel ?»«
Je n'en sais trop rien. C'est en rapport avec son marguet, je pense. »
Raison de plus pour ne pas l'accompagner. Je tâchais d'envisager toutes les ramifications possibles de la situation, et une idée me vint. Civil vous a-t-il donné un autre animal? A-t-il essayé de vous offrir un compagnon de vif?
Me croyez-vous assez stupide pour lui faire confiance si c'était le cas?
Le prince paraissait à la fois interloqué et vexé par ma question.
Je ne suis pas idiot, Tom. Non. Civil m'a même recommandé de ne me lier à aucune créature avant un an au moins. La tradition du lignage prévoit une période de deuil précise, de sorte que, lorsque l'humain choisit un nouveau compagnon, on soit sûr que c'est par attirance mutuelle, et non pour remplacer l'animal perdu.
Apparemment, Civil vous a longuement entretenu des coutumes du lignage. Le prince se tut un moment, puis il répondit avec froideur.
Vous n'avez pas voulu me les enseigner, Tom, mais je savais, au plus profond de moi, qu'il fallait les apprendre. Pas seulement pour me protéger, mais aussi pour maîtriser ma propre magie. Je refuse d'avoir honte de mon vif, Tom. Je suis obligé de le cacher à cause de la haine injuste que beaucoup lui vouent, mais je refuse d'en avoir honte ou de le renier.
Je ne voyais guère que répondre, d'autant qu'une pensée perfide me soufflait qu'il avait raison. N'aurions-nous pas vécu plus heureux, Œil de Nuit et moi, si j'avais été formé au vif avant de me lier à lui. Pour finir, je déclarai d'un ton guindé. Mon prince agira selon ce qu'il juge le mieux, je n'en doute pas. En effet. Puis, comme s'il venait de remporter une bataille, il changea de tactique et me demanda du but en blanc. Je ferai donc semblant de n'être au courant d'aucun complot, et vous? Je crains que le péril ne soit aussi grand pour vous que pour moi. Non, plus grand même. Mon nom me protégera dans une certaine mesure. Il faudrait que l'épi parvienne à prouver que j'ai le vif avant d'être en mesure de se débarrasser de moi. Mais vous, on pourrait vous casser la tête dans une ruelle de bourg de Castelserre sans que personne y voie plus qu'un incident banal. Vous n'avez pas de nom derrière lequel vous abriter. Je faillis sourire. C'était précisément mon anonymat qui me protégeait, et il me fallait impérativement préserver ce bouclier. Je dois parler à Imbre immédiatement. Si vous tenez à m'aider, informez les cuisines que vous avez envie de gâteaux roses aujourd'hui. Il hocha gravement la tête. Puis-je faire autre chose? La question était sincère et j'en fus ému. Il était mon prince et pourtant, il m'offrait ses services. J'aurais pu refuser, mais je pense qu'il se sentit plus gratifié par ma réponse. Eh bien oui. Outre le gâteau rose, il me faut une grosse grappe de raisin sec, une écharpe rouge, un bon couteau de ceinture et une plume de paon. Alors que les yeux du prince s'arrondissaient, j'ajoutais. Un saladier de noix et quelques douceurs ne seraient pas malvenus non plus. Si vous pouviez apporter cela ici sans vous faire remarquer, vous me seriez d'une grande aide. Je me chargerai de déposer ensuite le tout chez Imbre. Cette liste est pour lourd. Vous voulez acheter sa loyauté? Il s'exprimait d'un ton scandalisé. Oui, c'est pour lourd, mais pas pour l'acheter. Enfin, pas exactement. Il faut absolument le rallier à notre camp de voir, et nous allons commencer par des cadeaux et des marques d'attention. Je pense d'ailleurs que ces marques se révéleront finalement plus importantes que les présents. Vous l'avez entendu décrire sa vie. Pourquoi vouerait-il de l'attachement à quiconque? Permettez-moi de vous dire ce que j'ai appris par expérience, mon prince. N'importe qui, même un roi, peut gagner l'allégeance d'un homme en lui dispensant d'abord des cadeaux. Au début, leur relation peut donner l'impression de s'arrêter à ce simple échange. Mais peu à peu, la loyauté et même un profond respect peuvent naître entre eux. Car lorsque quelqu'un nous porte de l'intérêt, ou que nous-mêmes éprouvons de l'intérêt pour quelqu'un, un lien se crée obligatoirement. Je me laissais aller à un moment à songer non seulement au roi subtil et à moi, mais aussi à la relation qui nous unissait, Heur et moi, et à celle qui s'était développée entre Burik et moi, puis entre Imbre et moi. Voilà pourquoi nous allons offrir à Lourdes des présents simples, qui pourront le mettre dans de bonnes dispositions. Un bain ne lui ferait pas de mal non plus, et aussi des vêtements neufs. Le prince réfléchissait à voix haute, sans trace d'ironie dans le ton. « Vous avez raison, » murmurai-je. Il ne comprit pas sans doute le sens que je donnais à cette réponse. Je me réjouissais qu'il se creuse la cervelle pour trouver le moyen de gagner le cœur de Lourdes, car en fin de compte, c'était entre deux que je cherchais à forger un lien. Je partageais soudain la conviction d'Imbre qu'il fallait un clan d'art au prince. Un jour viendrait peut-être où seule la phrase « ne le vois pas, ne le vois pas » empêcherait qu'on lui passe la corde au cou. Nous partîmes chacun vaquer à nos propres affaires. Je retournai rapidement à ma chambre par le labyrinthe secret. De là, je sortis des appartements du fou sans même prendre le temps de vérifier s'il était réveillé ou non, et quelques minutes plus tard, je gravis 4 à 4 l'escalier de l'aile du château où résidait le plus proche conseiller de la reine. Je regrettais de ne pas disposer d'un moyen plus discret de le contacter, mais j'avais décidé, si on me barrait le chemin, de prétendre lui délivrer un message du seigneur doré. La matinée, bien que déjà riche en surprises et en rebondissements, commençait à peine. La plupart de ceux qui circulaient sans bruit dans Castelserre étaient des domestiques affairés aux tâches destinées à fournir un lever agréable à leur maître. Certains portaient des seaux d'eau pour les ablutions, d'autres des plateaux de petit-déjeuner. Une guérisseuse, chargée de pansements et de baumes en peau, me dépassa malgré mes longues enjambées. La petite femme trottait d'un pas pressé, les joues en feu, comme si sa vie en dépendait. Je supposais qu'elle se rendait chez Imbre pour traiter ses brûlures. C'est pourquoi, lorsqu'elle s'arrêta devant moi sans crier gare, je faillis trébucher sur elle. Je gardais l'équilibre en plaquant une main contre le mur, puis lui présentais mes excuses.
« De rien, répondit-elle. « Ouvrez-moi simplement cette porte, s'il vous plaît. »
Ce n'était pas celle d'Ambre. J'avais repéré ses appartements depuis longtemps. Mais ma curiosité avait été piquée. Aussi, tout en m'apprêtant à pousser le battant, je m'exclamais d'un ton fervent. « Que de produits vous portez? J'espère que Dame Pudeur n'est pas trop gravement blessée. » La guérisseuse secoua la tête d'un air agacé.
« Nous ne sommes pas chez Dame Pudeur. C'est Dame Romarin qui a besoin de mes services. Une chute de suie s'est produite dans sa cheminée cette nuit et le nuage s'est enflammé devant elle, la malheureuse. Elle est brûlée aux deux mains et sa belle chevelure est bien roussie. Allons, ouvrez cette porte, mon ami. »
J'obéis, bouche bée, puis je risquai un rapide coup d'œil dans l'appartement avant de refermer. Dame Romarin avait les joues et le front aussi rouges qu'ambre. Emmitouflée dans une couverture jaune, elle occupait un fauteuil près d'une fenêtre, et une soubrette empressée coupait les pointes racornies de ses cheveux. Elle tenait ses mains devant elle, bandées de linge mouillé, comme si elle la faisait souffrir. Ce fut tout ce que j'aperçus avant que lui ne se rabattît. Je vacillais légèrement tandis que les pièces s'emboîtaient dans mon esprit. J'avais découvert un secret de trop ce matin. Dame Romarin était le nouvel apprenti d'Imbre. Mais pourquoi pas après tout? Royal lui avait enseigné les rudiments du métier d'assassin quand elle était enfant. Pourquoi refuser un espion déjà formé? J'éprouvais soudain une profonde tristesse devant une attitude aussi terre-à-terre. Pourtant, j'avais entendu plus d'un loin voyant le dire. L'arme qu'on jette aujourd'hui peut servir demain contre soi. Mieux valait garder Dame Romarin bien en main que risquer de l'avoir utilisée contre nous par un autre. Je repris mon chemin d'un pas plus lent. Ce que je venais d'apprendre n'ôtait rien à l'urgence de ma mission, mais j'avais l'impression que tant d'idées se bousculaient sous mon crâne qu'il m'était impossible d'en suivre une seule. Arrivé à la porte, je frappai, et un gamin d'une dizaine d'années vint m'ouvrir. Je pris une voix sonore et un ton enjoué. « Bien le bonjour, jeune monsieur. Je m'appelle Tamblero, serviteur de Sire Doré, et j'apporte un message pour le conseiller Imbre. » L'enfant me regarda, les paupières papillonnantes, il n'était pas réveillé depuis longtemps.
« Mon maître n'est pas bien aujourd'hui, » répondit-il enfin. « Il ne veut voir personne. »
Je souris d'un air affable. « Oh, il n'a pas besoin de me voir, jeune monsieur. Il lui suffit de m'écouter. Ne puis-je lui parler ?»«
Non, je regrette. Mais vous pouvez me remettre votre message, si vous voulez. »
Le seigneur Doré ne l'a pas écrit. Il m'a confié le soin de le répéter. Je parlais d'une voix tonitruante, sans me préoccuper du silence qui régnait dans les couloirs du château et dans l'appartement aux volets clos. L'enfant jeta un coup d'œil furtif à une porte fermée derrière lui. C'était donc celle d'Imbre, sans doute. Le découragement me gagna. Peut-être le vieil homme s'était-il alité pour de bon à la suite de son accident, et s'il dormait dans une chambre close, Louis affaibli par sa mésaventure, les chances étaient minces qu'il m'entende et m'invite à entrer.
« Et quel est le message ?»
demanda le jeune page d'un ton ferme. Il arborait un sourire aimable, mais se tenait bien campé dans l'encadrement, me barrant le passage. À l'évidence, il me rangeait dans la catégorie des hommes d'armes classiques de Castelserre, pas très malins de naissance, et dont de longues années à prendre des coups sur la tête n'ont pas amélioré l'intellect. Je m'éclaircis la gorge et hochai la tête. « Sire Doré de Jamaïlia invite le seigneur Imbre, grand conseiller de la reine Quétricaine des Six Duchés, ce matin à partager son petit déjeuner et à participer à un jeu de hasard fort distrayant. Il n'en a appris les règles que tout récemment et pense qu'il intéressera le conseiller. On l'appelle le lot de vin, dans la région d'où il provient. Chaque joueur ne reçoit qu'un seul jeu de pion, et son sort dépend de sa capacité à prendre des risques supérieurs à ceux de ses adversaires, avant l'expiration du délai imparti. Des rumeurs assurent qu'on y joue à Bourg-de-Castelserre, mais mon maître ignore où exactement. La mâchoire inférieure du petit page commençait à s'affaisser. On l'avait certainement bien entraîné à rapporter mot pour mot les messages verbaux, mais pas d'une telle longueur. Souriant imperturbablement, je poursuivis d'une voix tonnante afin de me faire entendre de l'autre côté de la porte. Mais l'aspect le plus curieux de ce divertissement est qu'on ne le pratique traditionnellement que les jours de lessive. Est-ce croyable? Naturellement, on peut s'y adonner quand on en a envie, mais les enjeux sont toujours les plus hauts les jours de lessive. Le page m'interrompit.
Je répéterai à mon maître qu'il est invité à une partie de l'eau de vin chez le seigneur Doré, mais je crains qu'il ne refuse. Comme je vous l'ai dit, il ne se sent pas bien.
Bon, ce n'est pas nous qui en décidons, n'est-ce pas? Notre rôle se borne à transmettre les messages. Allons, merci et bonne journée. Et je m'éloignai en fredonnant l'air pressé. Aux cuisines, je garnis un plateau d'un repas plus que copieux auquel j'ajoutais, afin de confirmer que Sire Doré allait bel et bien recevoir le conseiller Imbre dans ses appartements, des assiettes et des coupes supplémentaires, et j'emportai le tout chez le fou. J'arrivai devant la porte à l'instant où le page d'Imbre allait y frapper.
Il venait présenter les excuses de son maître, incapable d'accepter l'invitation à cause d'un affreux mal de tête. Je lui promis de transmettre ses regrets au seigneur Doré. J'eus à peine le temps d'entrer, de bâcler lui derrière moi et de poser le plateau qu'Imbre sortit de ma chambre.
« Que se passe-t-il avec Lodevin ? »
lança-t-il d'une voix tendue. Il offrait un spectacle encore plus affreux que la nuit précédente, si cela était possible. La peau écarlate de son front et de ses joues pelait à présent et lui donnait l'air d'un lépreux. En revanche, il s'exprimait d'une voix moins sonore. Afin d'en avoir le cœur net, je lui demandai très bas. « Votre ouïe s'améliore ?» Il me jeta un regard noir.
« Un peu, mais il faut tout de même que tu parles plus fort si tu veux que je t'entende bien. Mais ce n'est pas le sujet. Que se passe-t-il avec Lodevin ?»
À cet instant, Sire Doré apparut. Il terminait de nouer la ceinture de sa robe de chambre.
« Ah, bonjour, conseiller Imbre. Je ne m'attendais pas au plaisir de votre visite, mais je constate que mon valet vous a reçu et qu'il a prévu le petit déjeuner pour nous deux. Prenez place, je vous en prie. »
Le vieil assassin le considéra d'un air exaspéré. Puis il se tourna vers moi avec la même expression.
« Ça suffit. Vos griefs réciproques ne m'intéressent pas. Nous avons affaire à une menace contre le trône des loin-voyants, et je ne tolérerai pas que vos querelles ridicules entravent nos efforts. Fou, taisez-vous. Faites ce chevalerie, rends-moi compte. »
Le fou haussa les épaules, s'assit dans le fauteuil en face d'Imbre, et sans cérémonie entreprit de servir mon ancien mentor. Je conçus une certaine aigreur à le voir accepter de revenir à son identité première pour Imbre, mais pas pour moi. Je m'installai à table avec eux. Le fou avait laissé mon assiette vide, et je la remplis tout en narrant par le menu les événements de la matinée. Plus j'avançais dans mon rapport, plus l'inquiétude se peignait sur le visage d'Imbre, mais il ne m'interrompait pas. Rendant la monnaie de sa pièce au fou, je ne lui adressai pas le plus petit coup d'œil. Quand j'eus fini, je versai de la tisane dans la tasse d'Imbre et la mienne, puis j'attaquai mon repas. Je me découvris un appétit de loup. Après un long moment de silence, le vieil homme me demanda.
« As-tu prévu des mesures ?»
Je haussai les épaules avec une désinvolture que j'étais loin de ressentir. « Elles sont évidentes, je pense. Il faut empêcher l'ours de quitter le château afin qu'il ne risque pas de révéler ce que nous savons. Garder le prince en sécurité chez lui aujourd'hui, et demain interroger l'ours pour apprendre où il va chaque semaine faire son rapport, puis nous y rendre nous-mêmes, éliminer le plus possible de ces gens, et nous assurer que cette fois, Lodevin n'en réchappe pas. » J'avais réussi à conserver un ton égal, malgré la répulsion que mes propres paroles m'inspiraient soudain. « Mais voilà, ça recommence, » me dis-je. Il ne s'agit pas de tuer au combat ou en défense, mais de projeter discrètement, de sang-froid, des meurtres pour le compte des loin-voyants. Avais-je vraiment affirmé que je n'étais plus un assassin et que je ne le redeviendrais plus jamais? Avais-je prononcé ces mots par hypocrisie ou par stupidité?
Cesse d'essayer d'impressionner le fou, ça ne prend pas,
répondit Imbre avec brusquerie. J'aurais été moins vexé s'il n'avait pas mis aussi précisément dans le mille. Oui, c'était vrai. Je plastronnais pour le fou. Sans même oser un coup d'œil pour voir comment il réagissait à la remarque d'Imbre, j'avalais une nouvelle bouchée pour m'éviter d'avoir à parler. Les propos suivants de mon vieux maître me laissèrent interdit.
« On ne tuera personne, Fitz, et toi, tu resteras à l'écart de ces gens. Je n'aime pas savoir qu'ils nous espionnent, et je suis humilié de n'avoir pas su déjouer la ruse qu'ils ont employée contre nous. Mais nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui le risque d'éliminer des viviers sans compromettre la parole de notre reine. Tu sais que Ketriken a proposé de recevoir une délégation de la communauté du lignage afin de trouver une solution aux persécutions injustes dont ses membres sont victimes. »
J'acquiesçai de la tête et il poursuivit.
« Eh bien, des messages lui sont parvenus ces deux derniers jours pour accepter son offre. Je suspecte que Laurier n'est pas étrangère à cette attitude. Pas toi ?»
Le vieil homme m'avait lancé la question à brûle-pourpoint, accompagné d'un regard sombre. Mais s'il avait espéré m'arracher un secret par surprise, il en fut pour ses frais. Je réfléchis un moment, puis hochai la tête. « C'est bien possible. Ainsi, il se passe. » Cette rencontre s'organise sans votre supervision ? Je n'avais pas trouvé de tournure plus délicate. Imbre s'assombrit encore.
Non seulement sans ma supervision, mais à l'encontre de mes recommandations. Nous n'avons que faire de nouvelles complications diplomatiques. Toutefois, je ne crois pas que nous y échapperons. Apparemment, la reine laisse tous les détails de l'heure et du lieu de la réunion à discrétion des viviers.
ils ont spécifié qu'afin d'assurer leur protection, le secret devait rester absolu, et nous n'annoncerons la tenue de l'Assemblée qu'au moment où ils nous y autoriseront. À mon avis, ils craignent la réaction de nos nobles s'ils apprennent ce qui se trame, et moi aussi. »
Il reprit son souffle et se domina.
« Aucune date précise n'a été fixée, mais ils nous ont promis que ce serait pour bientôt. Il est très possible que Lodvin fasse partie des émissaires. Aussi, le tuer là où il loge avant qu'il ait vu la reine serait politiquement malvenu. »
« Et grossier, au surplus !»
intervint le fou entre deux bouchées de pain, en brandissant l'index en direction d'Imbre d'un air de remontrance. « Je dois donc rester les bras croisés ?» demandai-je avec froideur.
« Pas exactement, » répondit le vieil assassin d'un ton modéré. « Ton conseil est judicieux. Empêche Lourd de sortir du château. Ne lui donne pas l'occasion de rapporter ce que nous avons appris et vois quels autres renseignements tu peux lui soutirer. Tu as eu raison également de recommander à Devoir de ne pas rester seul avec Civil Brisinga. L'invitation était peut-être innocente, mais il s'agissait peut-être aussi d'une ruse pour fournir un otage à nos ennemis. Je n'ai pas encore réussi à déterminer quelle part exacte les Brisinga ont prise dans le dernier enlèvement. Les rapports que je reçois de Castelmyrte sont contradictoires. Je me suis demandé quelque temps si Dame Brisinga ne se trouvait pas elle-même en danger ou en position d'otage, tant ses déplacements étaient limités et son existence monacale. Ensuite, j'ai soupçonné de simples difficultés financières, et aujourd'hui, on m'apprend qu'elle boit beaucoup plus que d'habitude. Elle se retire très tôt dans sa chambre et se lève tard le matin.
Il poussa un soupir.
Je n'ai encore abouti à aucune conclusion en ce qui la concerne, et je n'ose rien faire contre elle alors que la reine s'efforce de s'attirer l'amitié des Vifiés. J'ignore toujours si les Brisinga représentent une menace ou s'ils sont nos alliés.
Il se tut, les sourcils froncés, puis reprit.
Quelle malchance de m'abîmer le visage alors qu'il est impératif que je puisse aller et venir et m'entretenir avec toutes sortes de gens. Mais je ne dois pas non plus exciter la curiosité. Certains risqueraient d'opérer des rapprochements indus. »
Sans un mot, le fou quitta la table et disparut dans sa chambre. Il ressortit un petit pot à la main. Il le posa près d'Imbre. Devant le regard interrogateur du vieil assassin, il expliqua d'un ton calme.
« Cet onguent fait merveille sur les desquamations. Il est aussi légèrement teinté pour éclaircir la peau. Si la couleur est trop vive, dites-le-moi, je puis la changer. »
Je remarquai qu'il n'avait pas demandé à Imbre ce qui lui était arrivé, et mon ancien mentor ne lui fournit aucune explication. Le fou ajouta d'un ton circonspect,
« Si vous le souhaitez, je vous montrerai comment l'appliquer. Nous arriverons peut-être aussi à réparer vos sourcils en partie. »
« Je vous en prie, »
répondit Imbre après une hésitation. Un coin de la table du petit déjeuner fut donc dégagé. Le fou apporta ses produits de maquillage et ses poudres, et il se mit à l'œuvre. Il était comme fascinant de le regarder travailler. Imbre parut mal à l'aise tout d'abord, mais il se prit vite au jeu et ne cessa de s'observer dans le miroir tandis que le fou remettait son visage en état. Quand il eut fini, Imbre hocha la tête d'un air ravi et déclara
« Ah, oh, si j'avais disposé de crème et d'artifices de cette qualité quand je jouais d'Ametin, je n'aurais pas été obligé de porter tant de voiles ni de puer si fort pour tenir les gens à distance. »
Je souris au souvenir que ces propos suscitaient, mais j'éprouvais aussi un trouble fugitif. Parler avec tant d'insouciance de ces secrets, si vieux qu'ils soient, ne ressemblait pas à Imbre. Supposait-il que j'avais révélé au fou tout ce qui nous concernait? Ou bien avait-il une confiance absolue en lui? Il leva la main pour se tâter la joue, mais le fou l'arrêta d'un geste.
« Touchez votre visage le moins possible. Emportez ces peaux et trouvez un prétexte pour vous isoler avec un miroir après les repas. C'est en ces occasions que vous devrez sans doute retoucher votre maquillage. Et, si vous avez besoin de mon aide, envoyez-moi simplement un billet m'invitant chez vous. Je passerai à vos appartements. »
« Dites à votre page que vous avez une question sur les règles du jeu de Lodvin, » intervins-je. Sans regarder le fou, j'expliquais.
C'est le prétexte que j'ai inventé pour entrer chez Imbre ce matin. Sire Doré l'invitait à partager son petit déjeuner et à lui apprendre un nouveau jeu de hasard.
« Invitation que j'ai déclinée pour raison de mauvaise santé, » enchaîna le vieil assassin.
Le fou hocha gravement la tête.
« Je dois m'en aller à présent. Continue sur ta lancée, Fitz, et fais-moi transmettre un message de cire dorée contenant le mot cheval si tu souhaites me voir. Si tu parviens à savoir par lourd où l'eau de vin loge, informe-moi rapidement. J'enverrai quelqu'un fureter sur place.
Je serai capable de m'en charger moi-même, fis-je à mi-voix.
Non, Fitz, il connaît ton visage, et l'ours lui a peut-être révélé que tu travaillais avec moi. Mieux vaut que tu ne t'approches pas de lui.
Il prit sa serviette pour s'essuyer la bouche, mais, devant le regard d'avertissement du fou, il se contenta de s'en tapoter les lèvres. Il se leva, fit mine de s'éloigner, et se retourna brusquement vers moi.
La figurine trouvée sur la plage des autres, Fitz. Tu as dit que, selon le prince, elle représentait la Narcheska, n'est-ce pas? Crois-tu que ce soit possible?
Je fis un geste d'ignorance. Cette plage m'a laissé une impression d'extrême étrangeté. Quand je songe à ce qui nous est arrivé, mes souvenirs restent vagues et brumeux.
Cela peut provenir du passage par les piliers d'art, d'après toi?
J'hésitai un instant. Peut-être. Pourtant, ce n'est pas la seule explication, je le sens. Qui sait si les autres ou des êtres inconnus n'ont pas placé cette grève sous l'effet d'un sortilège? Rétrospectivement, mes décisions me paraissent dépourvues de logique, Imbre. Pourquoi n'ai-je pas tenté de suivre le sentier qui menait à la forêt? Je me rappelle l'avoir regardé en songeant qu'il n'était pas là par hasard, qu'on l'avait tracé, et cependant je n'éprouvais aucune envie de l'examiner de plus près. Non, c'était encore plus fort que ça. Le bois me donnait une impression de menace, comme je n'en ai ressenti devant aucune autre forêt. Je secouai la tête. Je crois que ce lieu baigne dans une magie qui lui est propre, qui n'est ni l'art ni le vif, et à laquelle je ne tiens pas du tout à me frotter à nouveau. L'art y prenait une force de séduction exceptionnellement puissante et... Je laissai ma phrase en suspens. Je ne me sentais pas encore prêt à parler de l'entité incompréhensible qui nous avait sorti, Devoir et moi, du flot de l'art et rendu notre intégrité. C'était une expérience à la fois trop immense et trop intime.
Une magie capable de donner au prince une statuette représentant sa future épouse, non telle qu'elle est, mais telle qu'elle sera.
Je haussai les épaules. Quand Devoir m'a fait remarquer la ressemblance, elle m'a paru évidente. J'ai vu de mes yeux dans les cheveux de la Narcheska une parure bleue semblable à celle de la figurine. En revanche, je ne l'ai jamais vue habillée comme la statuette, et elle n'a pas encore de poitrine.
Il me semble avoir lu quelque part qu'il existe une cérémonie dans les îles d'outre-mer où les jeunes filles se présentent ainsi vêtues pour demander reconnaissance de leur statut de femme.
Je ne cachais pas que je jugeais la coutume barbare, puis j'ajoutais « La Narcheska et la sculpture ont des traits communs, mais ce sont peut-être simplement ceux que partagent toutes les Outriliennes. Je ne crois pas qu'il faille y accorder trop d'attention pour le moment. » Imbre soupira.
« Il y a trop de lacunes dans notre connaissance des îles d'outre-mer et de leurs habitants. Bien, je dois m'en aller. J'ai beaucoup à rapporter à la reine et quantité de questions à poser à différentes personnes. Fitz, dès que tu auras obtenu des informations précises de l'ours, reviens me voir. Fais-moi transmettre un message du fou contenant le mot lavande. »
Mon cœur marqua un battement. « Je croyais que c'était cheval, » dis-je. Imbre s'arrêta près de la porte de ma chambre. Il était ébranlé, je le savais, mais il tenta de dissimuler son trouble.
« Vraiment? Non, c'est un terme trop courant, je trouve. Je préfère lavande. Il y a moins de risques que tu m'en parles par accident. Au revoir. »
Et il sortit, refermant ma porte derrière lui. Je me retournai vers le fou pour voir si l'erreur du vieillard le consternait autant que moi, mais il n'était plus là. Il s'était éclipsé discrètement en emportant ses onguents et ses poudres de maquillage. Je poussai un soupir et entrepris de débarrasser la table. Les brefs moments que je venais de passer en sa compagnie m'avaient fait toucher du doigt à quel point il me manquait. Le voir accepter de complaire à Imbre, mais pas à moi, m'infligeait une profonde blessure. Et je songeais avec amertume, du moins, si le fou est bien sa véritable identité.